Pour tous les amoureux du jazz, Marie-France Guimard-Roche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. Oryx avait demandé à Martin Williams, auteur de l'ouvrage The Jazz Tradition, de se charger du chapitre Sonny Rollins dans Jazzmen d'aujourd'hui. Mission accomplie pour ce critique qui décrypte à la fois le musicien et l'œuvre. La maturité du bop. Le voici, Sonny Rollins, à la poursuite du Dauphin Vert, enfin presque, On Green Dolphin Street. Theodore Walter Sonny Rollins est né à New York City à une date que l'on fixe avec beaucoup de fantaisie en 1929, 1930 et 1931, la première étant, d'après Martin Williams, la seule vraie. Il soupçonne d'ailleurs quelqu'un de la repousser délibérément en avant. Son premier instrument a été le sax alto et, selon la rumeur, sa première idole, Louis Jordan. Jordan n'est pas un si mauvais choix d'ailleurs, il a du rythme, une imagination assez souple. Il connaît bien le blues et son jeu témoigne d'un humour assez profond. À cette époque-là, deux choix s'offraient au jeune homme qui voulait faire du jazz. Ou bien il jouait ce que nous appelons aujourd'hui le vieux style rhythm and blues, dont Jordan, en un sens, représentait un exemple déjà ancien et somme toute assez bon. Ou bien il acceptait de lier son sort à ce que l'on a désigné comme le moderne. Pour Rollins, ce choix, même inconscient, était inévitable. Le second enregistrement de Rollins, et le premier qui ait eu quelque importance, a été réalisé avec Bud Powell pour Blue Note. À l'époque, il avait 20 ans. Il jouait en compagnie de musiciens illustres et, ce qui est plus important, très expérimenté. Tous les autres musiciens, comme les autres chefs de file du bop à cette époque, avaient déjà fait l'expérience des grands orchestres. Rollins, comme beaucoup des musiciens bop de la seconde génération, n'avait pas traversé ce genre d'expérience. Il ne l'a toujours pas fait, c'est évident. Sonny n'avait même pas l'expérience régulière d'un groupe organisé avant de se joindre à Max Roach aux environs de 1950. Du travail dans un grand orchestre, on peut tirer des leçons de discipline et de concentration. Solo, beaucoup plus bref, jeu précis, à l'unisson, coopération et responsabilité. Rollins a appris quelques-unes de ses leçons, les autres, il n'a même pas eu besoin de les apprendre. Dans les enregistrements de Powell, Sonny Rollins apparaît un assez bon soliste. La récente publication de quelques secondes prises de ses œuvres le fait même apparaître bien meilleur. Sa conception est moderne, certes, mais pas beaucoup plus, disons, que celle de Dexter Gordon, et à peine plus seulement que celle de Don Byas. La comparaison avec Hawkins était inévitable. À coup sûr, beaucoup de ce que Rollins sait de l'harmonie vient de ses premières impressions du style de Coleman Hawkins. Coleman Hawkins, le voici au sein de l'orchestre des Mound City Blue Blowers, avec Red McKenzie, compositeur de ce morceau, Glenn Miller est au trombone, Pee Wee Russell à la clarinette, Eddie Condon au banjo, Jack Bland à la guitare, Bob Foster à la basse et Jane Krupa aux drums pour Hello Lola. Mais ici, nous dit Martins Williams, il nous faut regarder un moment en arrière et dire quelques mots de la situation générale du premier jazz moderne, le bop, comme on l'a appelé. Le plus commode sera de centrer ses considérations autour de Charlie Parker. Louis Armstrong avait réinterprété le langage du jazz vers la fin de 1920. C'était un langage qui avait déjà trouvé une forme admirable, trop tôt peut-être, dans l'œuvre superbe de Jelly Roll Morton. Parker et Gillespie ont fait de même. Ils ont réinterprété le langage du jazz peu après qu'il ait pris forme dans l'œuvre de Duke Ellington. Parker était un créateur brillant, peut-être un génie. Cependant, plus on avance dans l'œuvre qu'il nous a laissée, plus celle-ci risque d'apparaître inachevée. Un jour viendra peut-être où nous considérerons cette œuvre comme un grand ensemble de ressources d'inspiration, un brillant jaillissement d'idées que le temps, et peut-être le temps n'y suffira-t-il pas, s'il n'est point d'autre génie, pourra œuvrer, explorer et élaborer. Car honnêtement, dans les enregistrements de Parker, combien trouve-t-on de chorus qui portent en eux-mêmes et d'eux-mêmes les marques de l'équilibre et de l'achèvement? Bien moins que chez Lester Young, c'est certain. Et combien même d'enregistrements de Parker comportent-ils cette forme émotionnelle totalement achevée, d'une passion portée à son point le plus haut? Quelques-uns, sans doute pas la majorité. Parker savait jouer. Il était incroyablement inventif, habile et puissant. En un sens, tout cela lui venait peut-être trop facilement, ou peut-être son imagination toute d'intuition était-elle trop grandiose. Mais certainement, au fur et à mesure des jours, ses possibilités n'ont pas été exploitées avec la discipline ou l'ordre qu'aurait exigé une vision plus large de l'œuvre. Bouleverser la mesure? Bien sûr, il développait des phrases de plus de 8 mesures. Bouleverser les lignes classiques du chorus? Bien sûr. Certaines lignes le font passer de la 10e mesure d'un chorus de blues à la 2e mesure du second chorus. Dans 4 chorus de Parker, il y a assez d'idées et de variétés mêlées, rythme, harmonie, mélodie, pour nous étonner pendant des années. Mais quelle idée d'ensemble régit tout cela? Bien peu d'ordinaire. Peut-être n'est-il pas allé assez loin. Peut-être était-ce là tout son génie. Peut-être, s'il nous est permis de jouer avec les mots, Parker n'a-t-il pas été qu'un génie musical devenu musicien en quelques occasions. En tout cas, l'idéal qu'il a réveillé chez beaucoup de musiciens a été de jouer chorus sur un modèle d'accord avec chaque fois une invention nouvelle. Au fond, quelque chose comme l'idéal d'un pianiste d'exhibition, d'un bastringue ou même d'un tam-tam primitif. C'est du moins l'opinion de Williams. Voici Charlie Parker avec Move de Denzil Best, quintessence du bop, enregistré à Birdland en juin 1950 avec son quintet. Fats Navarro, trompette, Curly Russell à la basse, Art Blakey aux drums et l'extraordinaire Bud Powell au piano, qui exécute ce morceau avec une virtuosité incroyable et une énergie communicative. Thank you. 1953 à 1954 et jusqu'en 1955, Sonny Rollins a traversé une période où de toutes apparences, des problèmes personnels l'ont lourdement accablé. Par la suite, en 1956, il partit rejoindre Max Roach à Chicago et parut alors les dominer. Il était devenu plus sûr de lui, plus mûr aussi. Entre-temps, on avait enregistré Air Green, Oléo, Doxy et But Not For. L'apport de Rollins consistait en deux excellentes pièces originales, Oléo, qui tirait quelque chose de réellement neuf de I Got Rhythm, et Doxy, blues moderne de 16 mesures. Il les a jouées comme le décrit Oder. Il avait retenu quelque chose des déplacements d'accentuation que Miles a introduit dans la syntaxe du jazz moderne. L'expérience avec Thelonious Monk fut décisive. Et maintenant, quelques banalités sur les talents de Rollins. En premier lieu, Rollins n'a pas, peut-être en a-t-il pas besoin, l'imagination harmonique de Charlie Parker ou de Miles Davis. Il paraît s'arrêter au 11e ou au 13e et au 5e accord en bémol. Il a surtout développé une virtuosité technique. Ce qu'a réalisé Miles Davis, il ne l'a pas fait. Et manifestement, il est inspiré par l'exploit de Parker. C'est en travaillant avec Max Roach que Rollins a intégré sa nouvelle maturité et développé son individualité, sa sûreté et son sens de la présence. La puissance, la tenue et l'énergie dont tout le monde parle se manifestèrent alors. Puis, à New York, sortit le micro-sillon longue durée Saxophone Colossus chez Prestige, avec Sonny, Tommy Flanagan, Doug Watkins et Max Roach. Ce fut ensuite Way Out West chez Contemporary, à Los Angeles avec Sonny, Ray Brown et Shelly Mann. L'apport effectif d'une pièce comme Blue Seven dans Saxophone Colossus consiste essentiellement dans sa structure d'ensemble. Je ne pourrais rien ajouter à l'excellente analyse de Gunther Schoeller sur ce morceau dans la Jazz Reviews, volume 1, numéro 1. Dans ce morceau, Rollins et Roche ont tous deux employé le thème provocateur comme base de presque tout ce qu'ils ont joué. Les élaborations, les variations et les réductions finales auxquelles Rollins se livre sur ce thème sont brillantes et se développent logiquement l'une à partir de l'autre. Comme le souligne Gunther, l'héritage de ce disque traverse The Weird Blues que Rollins réalisa avec Miles Davis et reflue dans Mysterioso de Thelonious Monk. Rollins, par la suite, enregistra lui-même cette composition que Schuller considère comme un résumé de la musique de Monk jusqu'à ce jour. On soupçonnerait volontiers l'influence de Monk dans Blue Seven. Max Roach a d'ailleurs confirmé qu'ils avaient toujours eu en présente, à leur esprit, l'idée de Monk. Un thème doit être exploité. Les pianistes ont toujours réfléchi sur la structure des longues improvisations. Morton en est un bon exemple. Garner en est un. Monk également. Dans le jazz moderne, Monk est sans doute le maître de la forme. Il est d'ailleurs curieux qu'un homme qui a tant apporté au langage du bop, sans jamais lui-même avoir été un boppeur, doive aujourd'hui montrer la voie aux autres en l'organisant, mais sans le formaliser. Mais Rollins est le premier instrumentiste avant qui ait réussi à maîtriser le bop. Il est aussi le premier qui ait su montrer combien l'ensemble des ressources techniques de la syntaxe bop pourrait être intégré dans des structures plus vastes. Les désintégrations de la ligne mélodique auxquelles se livre Rollins vers la fin de Blue Seven montrent qu'il sait ce que représente une mélodie et comment en user. Miles Davis a montré quel effet on pourrait tirer pour la construction d'un solo du départ graduel sur la base d'une mélodie, puis de sa désintégration, en un mot, de l'élaboration graduelle, de l'improvisation, sur une seule structure d'accord. Avec Saxophone Colossus et Way Out West, qui n'est qu'une longue improvisation, Rollins met en œuvre avec mesure, discipline et signification toute sa virtuosité technique. Thelonious Monk à son piano avec I Let a Song Get You Off My Heart. Thank you. Rollins sait aussi présenter ses improvisations assez différemment. Cette autre méthode n'apparaît jamais aussi bien dans ses disques que lorsqu'il est présent, mais elle transparaît assez nettement dans ses deux grands micro-sillons. C'est la structure qu'annonçait déjà Mambo Bounce. Rollins joue sa mélodie, puis s'en éloigne graduellement dans une improvisation construite sur les accords de celle-là. Ils conservent aux notes leur valeur. La longueur des séries et la structure des choristes demeurent assez simples. Graduellement, la valeur des notes diminue, les séries s'allongent et deviennent plus complexes. Tous ces éléments de virtuosité moderne et leur rythme atteignent alors leur sommet. Rollins renonce à la complexité. Peu à peu, il revient à des simples variations sur la structure harmonique. Progressivement, il reconstruit la ligne générale de la mélodie et finit sur une tonalité stable. Un tel compte-rendu peut donner l'idée d'un processus mécanique, mais la force et la conviction propre à Sonny Rollins l'empêchent d'être tel. Pourtant, il n'exploite jamais ce schéma général ni son talent. De longues envolées sont interrompues par d'autres, plus courtes, parfois même par des notes en staccato sur quatre mesures. Les développements de la mélodie s'expriment dans des variations harmoniques strictes. Bientôt apparaissent des séries de notes brèves. Tout cela annonce et exprime la structure totale. Et la meilleure manière d'écouter Sonny Rollins est d'essayer d'écouter chaque partie comme un moment du tout. Qu'y a-t-il à ajouter ? Sa façon de s'accompagner seule à laquelle est parvenu Rollins, et qui avant lui l'a réussi, sinon Sidney Bechet. Sa manière d'ouvrir une soirée par une note basse, chantant comme la voix d'un violoncelle. Peu de ténors s'y risqueraient avant d'être réchauffés pendant quelques morceaux. Lorsque je l'ai entendu avec Thelonious Monk le premier soir, il parvenait à intégrer, à reprendre et à développer de fragiles interpolations dans ses propres solos. Le lendemain soir, il jouait dans la tradition bop et s'adaptait sans effort à la structure générale. Son autorité était telle et si grande son énergie qu'on était suspendu littéralement à chaque note. Mais aujourd'hui, le connaisseur, le fan du jazz moderne, a tout abandonné sauf Rollins. Rollins est largement reconnu. Le fan ne veut évidemment pas voir son territoire envahi, même par le petit public qu'un jazzman à même d'avoir. Marie-France Guimard-Roche vous dit au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Jazz Rétro enregistré et réalisé par Roland Richard dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel. Thank you.